Mystère de l'Église avec Mgr Marc Haillet.
Voilà, concernant le mystère de l'Église, nous avons terminé le paragraphe 5, le paragraphe 4, pardon, sur les différents membres qui composent le peuple de Dieu, la hiérarchie, le laïcat et la vie consacrée. Et nous arrivons au paragraphe 5 qui concerne la communion des saints. Hein, on continue, en effet, le credo, je crois, en l'Église, une sainte, je crois en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, etc. La communion des saints est une autre expression très importante de l'Église. Nous croyons en effet que l'Église est sainte, nous l'avons déjà dit. Nous avons terminé sur la vie consacrée et nous avons souligné que dans la constitution Lumen Gentium, entre la hiérarchie et le laïcat et la vie consacrée, il y avait ce fameux chapitre 5 qui concerne la vocation commune à la sainteté. En disant que les consacrés sont précisément là pour, à titre d'exemplarité, de nous montrer le chemin de la sainteté par le choix radical qu'ils font de vivre les conseils évangéliques et la perfection chrétienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce chapitre sur la vie consacrée, qui est le chapitre 6 de la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, précède immédiatement le chapitre 7, qui est consacré à la dimension eschatologique de l'Église qui se réalisera pleinement dans le royaume des cieux. Donc nous sommes en marche vers le royaume des cieux et c'est là que la sainteté sera parfaitement consommée et réalisée. Et donc d'une certaine manière, les consacrés anticipent cette vie du royaume des cieux et donc ont une dimension. La vie consacrée a une dimension qui est proprement eschatologique. La communion des saints, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord deux choses. La première chose qui est comprise dans le terme communion des saints, qui se réfère à, je dirais, qui se réfère à cette expression latine traditionnelle qui est sancta sanctis, hein, les choses saintes. Pour les saints, ce sont ceux qui sont baptisés et qui sont en marche vers la sainteté, ça c'est pour la vie d'ici-bas, et les saints, ce sont ceux qui sont parvenus au terme de leur cheminement, qui commence donc dans une communion aux choses saintes. Qu'est-ce que c'est que la communion au sein de l'Église ? C'est une communion qui est fondée sur les choses saintes que l'Église met à disposition des fidèles. À commencer par la parole de Dieu, à commencer par le trésor de la tradition de l'Église. Puis ensuite, ce sont les sacrements qui nous sanctifient, en tant que les sacrements nous relient directement à l'humanité sainte du Christ, à travers les signes efficaces de sa grâce qu'il a institués et qu'il a confiés à son Église, précisément, pour sanctifier les hommes. On dira donc que cette communion aux choses spirituelles, aux choses saintes, c'est la communion dans la foi. Notre communion repose sur l'unité de la foi. C'est pas d'abord une question de psychologie, de consensus, de technique d'unité dans un groupe. C'est d'abord une communion qui est fondée sur une réalité objective, qui est la foi. Transmise par l'Église fidèlement depuis 2000 ans. Si nous n'adhérons pas à telle ou telle vérité de la foi qui nous a été transmise intégralement par l'Église à partir de l'enseignement de Jésus et des apôtres, eh bien nous ne sommes pas dans la communion de l'Église. Voyez, c'est la communion des sacrements évidemment et d'une manière excellente à travers le sacrement de l'Eucharistie qui est par excellence sacramentum caritatis, sacramentum unitatis, sacrement de l'amour, de la charité et sacrement de l'unité. Parce que nous communions au corps du Christ, nous devenons le corps du Christ qui est un, saint, catholique et apostolique comme nous l'avons déjà relevé. C'est la communion aussi des charismes. l'Esprit Saint distribue aussi des dons gratuits pour pouvoir édifier l'Église. Et quand quelqu'un reçoit un charisme, ça n'est pas pour se mettre en avant, ça n'est pas pour prendre une place prééminente par rapport aux autres. Il reçoit un charisme, que ce soit un charisme nécessaire comme les ministères ordonnés, comme nous l'avons déjà dit, ou les charismes de secours qui sont donnés aux baptisés selon le don de l'Esprit, eh bien, n'est pas donné pour moi, mais pour les autres, et donc pour construire l'Église, édifier l'Église et la construire évidemment dans l'unité, ce qui suppose que ces charismes ne peuvent être exercés que dans la communion de l'Église et toujours sous la direction du magistère. Cette communion des saints, c'est aussi le fait de mettre en commun nos biens matériels pour le service des pauvres en particulier. Ça peut être la mise en commun des biens pour vivre en communauté, comme ça peut se faire en particulier dans la vie consacrée. Mais ce peut être aussi bien mettre ses biens à la disposition des autres et en particulier des plus pauvres. C'est la communion de la charité qui s'exprime à travers l'aumône sans doute, mais qui veut signifier aussi l'unité des cœurs et des âmes. Mais la communion des saints, c'est aussi la communion de l'Église du ciel et de la terre. Voyez, on dit que l'Église comporte trois étages ou trois états. Si je lis le numéro 49 de Lumen Gentium, donc qui est du chapitre 7, consacré au terme du pèlerinage de l'Église sur la terre, c'est-à-dire au royaume des cieux, je lis la chose suivante. « En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges et que la mort détruite tout lui soit soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, d'autres ayant achevé leur vie se purifient encore, d'autres enfin sont dans la gloire contemplant dans la pleine lumière tel qu'il est, le Dieu un en trois personnes. » Vous voyez, ces trois états ou ces trois étages de l'Église, pour parler de manière imagée, c'est d'abord ce que l'on appelle traditionnellement l'Église militante. Pourquoi militante ? Parce qu'elle est encore dans le combat pour promouvoir le bien, pour rayonner l'amour, et donc combat le mal en soi et dans les autres. Donc c'est l'Église militante, c'est l'Église de la terre, à laquelle nous appartenons quant à nous, qui sommes encore en attente du retour du Christ qu'il a annoncé, et qui se réalisera pour chacun de nous avant le dernier avènement du Christ, bien le jour de notre mort, qui sera le jour de notre rencontre avec le Seigneur. Puis il y a ceux qui sont dans cet état intermédiaire de purification, parce que s'ils sont morts dans la foi, s'ils sont morts en état de grâce, le cœur tourné vers Dieu, eh bien ils apportent aussi le poids de leur péché passé, même s'ils ont été pardonnés, et qu'ils sont sûrs d'entrer définitivement dans le royaume des cieux, eh bien, comme dirait Catherine de Gênes, qui a eu Sainte Catherine de Gênes, qui a fait un traité du purgatoire, dans lequel elle dit même les visions mystiques qu'elle a eues sur cet état, elle dit que les âmes parvenant devant Dieu, eh bien, découvriront ou ressentiront ce besoin d'être parfaitement purifiées pour entrer définitivement dans la gloire du ciel. Et c'est ce qu'on appelle en effet le purgatoire, qui n'est pas un mot désuet, qui n'est pas un mot dépassé, mais dans le mot purgatoire, il y a le mot purge, il y a le mot purification. Et en effet, les âmes ne voient pas encore Dieu. Elles sont sûres, dans l'espérance théologale, qu'elles verront Dieu. Elles sont sûres d'être aimées de Dieu. Mais leur foi est encore, et elles ont encore une foi qui n'est pas complètement achevée dans la vision, et certainement qu'elles ne peuvent plus mériter pour elles-mêmes, car elles sont passées de l'autre côté. Nous pouvons hâter leur entrée dans la gloire par la prière et des messes que nous faisons célébrer pour nos défunts, dans la certitude qu'ils sont vivants et faits pour la vie éternelle, mais eux peuvent continuer à prier pour nous. Et enfin, il y a l'Église triomphante, donc on a dit l'Église souffrante, le purgatoire, l'Église triomphante, ce sont ceux qui sont parvenus évidemment dans la gloire du ciel et qui sont pour nous non seulement des modèles, mais des intercesseurs, ce sont tous les saints qui sont parvenus au terme de leur chemin. »